Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
La maladie d'Ebola, quels sont les signes? Comment on peut se protéger? Nous rappelons le numéro des contacts si vous voulez intervenir. Appelez au 081 890 6034 ou encore faites un SMS au 081 711 5001. Docteur Anissé qui passe à Mongala, médecin, chef du district sanitaire de Kikuitan. Vous êtes là avec nous pour parler de cette maladie d'Ebola. Docteur, c'est vrai qu'on en parle, ça fait un bon moment. Est-ce que vous pouvez encore rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur cette maladie Ebola?
Merci, on en parle, mais on en parlera toujours, on n'en parle jamais assez. Je voulais dire qu'actuellement, par le monde, il y a la psychose de la maladie à virus d'Ebola. Oui. Avant, même à l'étranger, aux États-Unis, j'étais là il y a quelques mois, les gens se disaient, bon, c'est pas notre problème, c'est un problème de l'Afrique, c'est un problème du Congo. Mais aujourd'hui, vous pouvez suivre toutes les radios internationales et vous verrez qu'il y a la psychose, il y a l'ébolaphobie, l'ébolamania qui est en train de troubler même les systèmes de transport partout. Et nous, au Congo, nous sommes fiers de ce que la coordination nationale a produit à partir de l'expérience non seulement de Gera dans le BOND et d'autres expériences avant. La coordination nationale a fait un très bon travail et nous sommes fiers de ça. C'est pourquoi, même si nous ne la vivons pas avec la même ampleur qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes très prudents. Quand la maison du voisin brûle, il faut absolument que vous vous mettez à l'abri. C'est pourquoi, avec ce que la coordination nationale a préparé et conformément à la demande de son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est pour le plan des contingences partout en province, les comités de lutte contre les épidémies et les catastrophes en province, chez nous avec l'inspection provinciale de la santé, avions préparé, conformément à ce que aux directives qui sont venues du niveau national, voici les signes, voilà comment la maladie se manifeste. Nous disons, 2 à 21 jours après la contamination, Ebola se manifeste par une montée brutale de la fièvre, la fatigue intense.
Une fièvre qui peut aller jusqu'à combien?
Comme c'est une maladie virale, elle peut aller jusqu'à 40 degrés. Donc c'est une fièvre. Pour l'avoir vécu en 95-96, quand nous avions dirigé la campagne d'Ebola à Kikuit, c'est vraiment une fièvre, une forte fièvre, et d'origine, apparemment, quand vous regardez, c'est une fièvre inexpliquée, et qui ne répond à aucun traitement. Et une montée brutale de la fièvre, il y a la fatigue intense, il y a les maux de tête, il y a la perte d'appétit, il y a les douleurs musculaires et articulaires. Généralement, dans les jargons médicaux, nous parlons des courbatures. Il y a des douleurs abdominales. Il y a la nausée, les vomissements. Il y a les diarrhées, les hoquets, la difficulté à avaler. Il y a la difficulté à respirer. Il y a les éruptions cutanées à un stade avancé. Il y a les saignements au niveau des gencives, des yeux, ou parfois une injection conjonctivale. Vous avez des conjonctives qui deviennent facilement, les gens vont dire, mais non, il a ce qu'on appelle dans les jargons populaires Apollo, mais en réalité, c'est une des manifestations de la maladie à virus d'Ebola.
Docteur, s'il vous plaît, vous avez dit à partir du deuxième au 21e jour après avoir été en contact avec le virus, ces signes peuvent commencer à apparaître.
Exact. Mais
c'est les signes qui apparaissent progressivement, bien du coup, vous avez tous ces signes, même, bien c'est des manières progressives, c'est-à-dire la fièvre, j'imagine bien qu'il y a d'abord la fièvre qui apparaît, mais les autres signes dont vous avez cité, c'est progressivement ou comment?
Il y a, savez, la maladie se confond parfois avec la fièvre typhoïde ou la malaria, et là, vous avez la fièvre, vous avez des courbatures dans un premier temps. Mais progressivement, vous atteindrez ce que nous appelons dans les jargons médicaux la diathèse hémorragique, des troubles par exemple avec des saignements. Mais ça n'apparaît pas d'emblée directement, non, c'est progressivement. Et de l'expérience que nous avions eue à Kikwit, il y a aussi des fortes douleurs thoraciques. Le malade vous dit « opérez-moi parce que ça ne va pas ». Et même de fortes douleurs abdominales, c'est ce qui a entraîné que dans certains milieux, on a confondu à un syndrome appendiculaire. On a pensé que c'était un problème d'appendicite et on a opéré.
Alors qu'il n'en était rien.
Et aussi, comme vous venez de le dire, dans le trouble de la coagulation, là, au site d'injection, plus tard, quand on a piqué quelqu'un, avec une seringue, et le sang ne se coagule pas. Et ça, ce sont des signes assez spécifiques qui nous amènent, qui nous conduisent directement vers ça. Il y a aussi un problème, nous disons, de rein, d'insuffisance rénale, et parfois d'insuffisance hépatique plus tard. Donc, ce sont surtout des signes généraux, et actuellement, d'ailleurs, quand on le remarque à la télé, comme ça se passe dans les grands aéroports.
Il y a du contrôle, on prend la température, oui.
La fièvre, mais c'est une forte fièvre. La fièvre est constante. La fièvre, le maux de tête. Pour avoir vu quelqu'un qui souffrait de l'Ebola, quand vous voyez quelqu'un qui a des maux de tête, mais ce sont des maux de tête très, très violents. Et comme on l'a dit ici dans le document du CNC, ce sont des maux de tête, mais des maux de tête, alors, violents. Voilà, en résumé, l'essentiel. Vous savez, dans la façon, notre façon de décrire, il y a les contextes. Pour quelqu'un qui se trouverait, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ou quelqu'un qui voit quelqu'un venir de l'Afrique de l'Ouest, la population, la communauté doit se rappeler ces signes. Parce que ça, c'est un plus par rapport à ce que l'équipe de la coordination appelle les données épidémiologiques.
Mais ce qui est vrai, lorsque vous avez en face de vous une personne qui fait une forte fièvre de manière brutale, il ne faut pas directement penser, bon, il faut l'amener au personnel de santé. Hein. Ça, c'est ça, il faut le souligner, docteur.
Exact. Oui. Regardez, la prudence voudrait que, oui, dans le contexte actuel, oui, toute fièvre n'est pas synonyme d'Ebola.
Tout à fait.
Mais ce que nous devons savoir, par rapport au contexte actuel, il faut être très prudent. Il faut être très, très prudent. Parce que l'une des grosses erreurs que les gens commettent, s'ils ne suivent pas les directives que le ministère de la Santé, la coordination nationale est en train de donner, facilement, les gens vont s'adonner à des comportements qui sont très, très dangereux. Par exemple, dans le contexte actuel, et si vous avez une suspicion que ça peut être Ebola, évitez, s'il vous plaît, évitez de donner l'aspirine. Parce que ça va accélérer le processus des diathèses hémorragiques. Il va commencer à saigner partout. Mais pour ça, c'est mieux de se remettre à ce que la commission, par exemple la coordination, vous demande de faire à travers la mobilisation sociale, à travers la communication, comme elle est en train de le faire maintenant.
Voilà, la maladie d'Ebola, nous en parlons avec notre invité, docteur Anissé Kipassa Mungala, médecin chef de district sanitaire de Kikwit. Donc avec lui, on est en train de parler sur les signes de cette maladie et notamment les mesures préventives. Vous vous êtes intéressé, vous voulez poser des questions, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, appelez au 081-890-6394. Vous avez aussi la possibilité de faire un SMS au 081-711-5001.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Nous avons les trois premiers auditeurs en ligne. Wilson qui appelle d'ici Rouen, province orientale, Edgar Lukambaita Kananga, dans les Cassos occidentales, Rachel Ndjunjou, se trouve elle à Kinshasa. Wilson, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à notre invité.
On vous écoute, Wilson.
Oh, j'ai une question qui a deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que l'Ebola peut être déclaré deux fois dans un même milieu? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est une personne déjà guérie d'Ebola, peut-être encore contaminée de la même maladie.
Voilà, merci Wilson d'avoir pris décision en province orientale. Edgar Lokamba, vous êtes à Kananga, dans le Cassa occidental. Bonjour Edgar.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Edgar.
Merci beaucoup pour la parole. J'ai trois questions. La première est celle de savoir, est-ce qu'une femme enceinte peut-elle transmettre le virus à son fœtus? Et la deuxième question, lorsqu'une personne est infectée par le virus d'Ebola, est-ce qu'elle peut, elle peut contaminer même les animaux, elle peut, la personne peut contaminer les animaux ou les oiseaux? Et la troisième question, une bête devient-elle contagieuse seulement après sa mort ou même quand elle porte, elle est encore vivante? Voilà mes trois questions, Marcel.
Merci Edgar d'avoir appelé du Kananga de Kassou Occidental à Kinshasa. Rachel Ndunde est en ligne. Bonjour Rachel.
Allô, bonjour.
On vous écoute Rachel.
Oui, merci beaucoup. J'ai une petite question à poser à l'invité.
Oui.
Je crois quand il y avait Ebola à Isiro, il y a eu une famille dont l'Ebola question avait ravagé, donc parce que toute la famille, excepté le papa. La maman était morte et c'est des enfants, donc des petites filles aussi. Mais le papa restait sur, donc, dans une même maison que, et lui, il était sauvé. Il avait même témoigné dans les radios locales, j'avais suivi. Alors ma question, ça va. Et savoir pourquoi le papa là, il ne peut pas attester. L'Ebola aussi, ça, bon, donc il y a aussi d'autres des anticorps qui peuvent résister à cette maladie. Comment?
Voilà, merci Rachel Ndunzu depuis Kinshasa. Docteur Anissé, on commence avec cette question de Wilson qui a dit est-ce que la fièvre, la maladie, la virus Ebola peut être déclarée deux fois dans un même endroit et puis une personne qui a souffert de cette maladie peut encore souffrir de la même maladie.
Merci, ce sont des très belles questions. Ebola une deuxième fois dans un même milieu. Oui, pourquoi pas. Le grand problème, c'est que nos auditeurs doivent savoir que jusqu'à présent, de façon certaine, le réservoir du virus, on a des hypothèses. Ça signifie, dans notre écosystème, le virus est encore là, il est en train de circuler. Je prendrai l'exemple des Kikuit. Nous avions enterré des cas de morts dans des sachets. Mais dans ces cimetières-là, avant 50 ans, il y a parfois des gens qui viennent se mettre tout autour de ces cimetières. Ils étaient dans des sachets, vous savez, le temps que les sachets peuvent prendre dans la nature. C'est dangereux. Et de la même façon, dans un milieu, par exemple, à Yamboukou, ou à Kikuit, ou dans la province orientale, là où il y a eu les virus. Ça signifie que les virus sont là dans la nature en train de circuler. Il suffit de rompre l'équilibre entre ce que nous venons de dire, nous allons dire tout à l'heure, les comportements à moindre risque, les virus peuvent réapparaître dans ces milieux-là. C'est possible. Et ça, c'est possible. La contamination, une deuxième fois, pour une personne, là, scientifiquement, je mets des doutes. Ce n'est pas possible parce que, actuellement, nous avons vu les malades, les convalescents, les rescapés d'Ebola, ils ont développé des anticorps. À moins que ce soit un autre sérotype. Mais avec la souche que nous avons eue, par exemple, à Kikuit, la souche qu'on a eue à Yamboukou, la souche qu'on a eue ailleurs dans les Kassai, avec la même souche, il y a moins de risques qu'une personne qui a fait ça. D'ailleurs, vous apprendrez que certains rescapés des Kikuit qui sont organisés dans une association sont les premiers qui demandent à être des volontaires pour aller soigner les gens, que ce soit à Boende ou en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils estiment qu'ils ont une certaine immunité. Pour la même personne, il y a moins de risques. En tout cas, il y a moins de risques. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas arrivé.
Et cette question d'Edgar qui a demandé si une femme enceinte peut bien transmettre le virus au fœtus, à l'enfant qui est dans le ventre.
Il y a beaucoup de choses encore à apprendre à propos d'Ebola. Mais je voudrais vous donner l'expérience des Kikuit. Ebola, c'est une maladie extrêmement dangereuse. Elle a causé un avortement à Kikuit. Elle a causé un avortement à Kikuit avec des hémorragies cataclysmiques. Des justesses, on a sauvé cette personne qui a eu avortement. Je crois que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu des enfants qui sont nés après Ebola. D'ailleurs, l'expérience que je voudrais partager, c'est qu'à cette époque-là, j'ai vécu un avortement. Il y a même une publication qu'on avait faite à cette époque-là avec le professeur Mouyembe sur l'avortement avec une patiente qui était atteinte d'Ebola. Mais la contamination directe, ce n'est pas impossible parce que avec le VIH, ça s'est fait, pourquoi pas avec Ebola, c'est possible.
Alors cette question également, est-ce que une personne infectée peut contaminer les oiseaux, les animaux? Et puis il y a toujours des gars qui a cherché à savoir, et quand est-ce que l'homme est infecté? C'est après avoir consommé une bête morte de la maladie d'Ebola, ou bien après avoir été même en contact avec la bête infectée d'Ebola?
Jusqu'à présent, la contamination d'homme à l'animal n'est pas démontré. Jusqu'à là, du moins, on l'a pas. Mais la contamination de l'animal vers l'homme, ça c'est certain. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour ceux qui ont suivi son excellence, je crois, Boende, il a bien spécifié, c'est un animal, pas les gibiers fumés, tout ce que vous voulez, un animal frais. Mais la question ici, il est en train de dire, c'est juste après sa mort. Mais pas nécessairement, si c'est un animal, je prends la chauve-souris, elle est contaminée, elle n'est pas encore morte, mais elle est contaminée. Si vous la touchez, si vous la dépiécez, son sang, vous êtes en contact avec son sang, vous pouvez être contaminé. Donc c'est pas seulement après sa mort.
Voilà, donc avant d'en arriver à la question de Rachel et surtout hein, de connaître les mesures préventives par rapport à la maladie d'Ebola, nous avons deux auditeurs qui sont en ligne. Il y a Baudouin qui appelle et qui nous dans le Maniema, et puis il y a Godefroy qui a qui quitte et dans le Bandundu. Vous voulez également intervenir par rapport à ces sujets sur la maladie d'Ebola. Le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 94.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Baudouin nous appelle de Kindu dans le Maniema. Bonjour Baudouin.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
On vous écoute Baudouin. Quelle est votre question?
Oui, j'ai trois petites questions que je pose à notre invité. La première, j'aimerais savoir où nous en sommes avec l'épidémie. C'est-à-dire, l'épidémie a-t-elle tendance à s'éteindre ou à s'entendre? Ça, c'est la première question. La seconde, quel est le moyen efficace pour combattre Ebola? Parce que, c'est-à-dire, partout là, ça Ebola dérange, et qu'on entend dans les radios, on parle toujours d'Ebola. Alors, je voudrais savoir quel moyen efficace pour combattre Ebola. La dernière, c'était bien que l'Ebola a certains signes, tels que les vomissements, la fatigue, les maux de tête. Maintenant, j'aimerais savoir où peut-on trouver la charge virale plus élevée par rapport à ces signes-là. C'est tout.
Merci, Baudouin, d'avoir appelé de Kindu. Qui dans le Bandundu, Godefroy est en ligne. Bonjour, Godefroy.
Bonjour.
On vous écoute, Godefroy.
Merci beaucoup. Je salue le docteur Anissé qui passe à Mongala, qui a une expérience un peu avérée en matière de la lutte contre l'Ebola, puisqu'il l'a expérimenté de main de maître en 1995 à Kipuite. Et j'ai de petites préoccupations.
Oui.
Il y a un flux migratoire presque non contrôlé vers Kipuite, du Kasaï, de Katanga. Et est-ce que réellement c'est toutes ces personnes en déplacement ont des garanties qu'elles sont saines, ou nous sommes en train d'élaborer un système de prévention, de médecine préventive, sans toutefois tenir compte de la migration de l'immigration, de l'émigration des personnes vers les grands centres tels que Tikwit, tels que Bandunduville, qui est à cheval d'ailleurs avec l'Équateur. Quelles sont les mesures que l'inspection provinciale de la santé avait déjà préconisé afin de disposer d'un test et que ce test garantisse réellement à la population que toutes les personnes que nous recevons ne sont pas porteurs du virus à Ebola. La seconde préoccupation...
Allez-y rapidement,
toujours,
oui.
Toujours autour de la médecine préventive. J'étais au bureau de médecin du docteur Kipasa et je vis des tracts, des pamphlets qu'ils ont mis sur pied, qui ont été édités dans beaucoup de langues locales. Et que ce pamphlet, juste j'avais aimé, ça peut aider la population qui ne peut pas suivre à tout moment les médias, la radio ou la télévision. Est-ce que ces pamphlets ne peuvent pas être mis à la disposition de la population, que ce soit la population de Kikwit, de pamphlets à Kikongo, ou la population qui vient de l'Est en Tuluba, ou de disons du centre en Tuluba, ou de l'Est en Swahili. Où en est-il avec ces tracts qui peuvent facilement renseigner la population à se protéger contre le virus à Ebola.
Merci, M. Godefroy, d'avoir appelé l'équipe dans le Bandundu. À Lubumbashi et dans le Katanga, nous avons Jules Mbouyou qui est en ligne. Bonjour, Jules.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour, Jules.
Ok. Je voulais simplement poser une petite question parce que vous savez, nous sommes des Noirs et ici chez nous en Afrique, nous n'avons pas surtout cette habitude d'avoir des médecins. Si il y a un cas, par exemple, à la maison, vous faites appel à ces médecins. Et, partant de ces cas d'Ebola, imaginez par exemple dans une famille, vous avez un frère ou une mère qui est infectée et que cette mère est en train de manifester tous ses signes pendant la période d'incubation, soit de 2 à 21 jours. Alors, ma question était celle de savoir comment arriver à éviter cette maladie alors que l'affection maternelle ou l'affection fraternelle peut exister. Vous savez, ici chez nous, lorsque quelqu'un est malade, on court directement derrière lui pour lui toucher parce qu'on ne peut pas l'éviter pour lui dire qu'il a cette maladie. Alors, pour éviter un peu ces catastrophes, comment arriver et quels sont les mécanismes qu'il faut appliquer pour éviter cette maladie d'Ebola afin qu'on ne soit pas infecté, bien que l'affection maternelle ou l'affection fraternelle peut exister. C'était ça ma petite question.
Voilà, merci à Jules Mbouyou d'avoir appelé de Lubumbashi dans le Katanga. Votre question rejoint celle de Rachel. C'est d'ailleurs par là qu'on va finir avec le docteur Anissier qui va parler de moyens de prévention par rapport à la maladie d'Ebola. On prend Dieudonné qui est à Kolwezi dans le Katanga. Bonjour Dieudonné.
Bonjour, je voudrais poser une question à l'invité.
Oui.
Bien que la République démocratique du Congo ait prétendu éradiquer la maladie à l'Équateur, quelles sont les précautions que nous pouvons prendre en interne pour que cette maladie ne puisse plus se répéter dans notre pays, puisque c'est en plusieurs répétitions que la maladie revient dans notre pays, si ce n'est pas à Bandundu, à l'Équateur ou Kasaï, mais quelles sont les précautions que nous pouvons prendre en interne pour éradiquer complètement la maladie. Merci.
Voilà, beaucoup de questions qui se recoupent. Hein. Donc là, c'est par rapport également à la préoccupation de Godefroy hein, qui a parlé du flux migratoire. Le docteur va répondre par rapport à tout cela, notamment sur les mesures qui sont prises pour contrecarrer cette maladie afin d'éviter que d'autres parties du pays soient touchées en RDC. On prend la dernière auditrice en ligne, c'est Wivine qui appelle de Kinshasa. Bonjour Wivine.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Wivine.
Oui, merci beaucoup. Ma question était la suivante. Imaginez que il y a une personne qui avait le virus Ebola et qui a été guérie. Disons que tous les signes ont disparu et il s'est rétabli.
Oui.
Est-ce que cette personne-là, on va dire que symptomatiquement, il a été rétabli, mais est-ce que dans la normale, cette personne doit être restée en contact avec les gens ou c'est une personne toujours à mettre en quarantaine?
Voilà, merci Wivine d'avoir appelé de Kinshasa. Bah, docteur Anissé, qui passe à Mungala, vous êtes maintenant chef de district sanitaire de Kikwit. Avec vous, on parle de la maladie d'Ebola. Quels sont les signes? Vous avez parlé des différents signes de cette maladie. Et il y a également des questions qui se posent notamment sur le moyen de prévention. On va finir par tous ces moyens de prévention. Mais d'abord, cette question de Baudouin, si je m'abuse pas, et qui a demandé sur la charge virale, parce que c'est une question qui se démarque un peu à deux autres questions. Il a parlé des différents signes dont vous avez cité. Il a parlé de la charge virale. Peut-être que vous avez mieux compris sa préoccupation que moi.
Ah oui, effectivement. Quand Baudouin parle de la charge virale, ça c'est un problème purement de cinétique, d'immunologie.
Oui.
Mais en rapport avec les signes, il a, c'est une très belle question, une question basée vraiment sur la science.
Oui.
Je prends juste un cas. Dans les cas d'Ebola, comme l'a si bien évoqué dans les dépliants, on parle de fatigue intense, fatigue extrême, et le malade refuse même de manger parfois. Pour ceux que j'ai vu, nous avions vu à Kikwit, et c'est une anorexie, une inappétence, il refuse de manger, il est tellement fatigué qu'il peut même pas bouger. Et ça, c'est en rapport avec l'atteinte hépatique, avec son foie. Et ça, ça signifie en ce moment-là, si c'était permis, quand on fait des nécropsies, on prend une partie, une biopsie du foie, on trouverait bien une charge assez suffisante du virus dans le foie. Mais c'est pas seulement dans le foie, c'est aussi dans d'autres systèmes. Les hémorragies, c'est les effets de que nous appelons dans le jargon médical l'antigène et l'anticorps au niveau des petits vaisseaux qui font que ces petits vaisseaux éclatent et le malade décède. Mais quant à la charge virale, ce que nous faisons d'habitude, même dans les tests, on va pas ouvrir chez tous les malades, mais c'est beaucoup plus dans les sangs qu'on va chercher quel est le titre des antigènes ou des anticorps dans les sangs. Mais sa question est pertinente et ça mérite beaucoup plus de profondeur là-dessus. Mais je n'ai pris que l'exemple du foie. Quand le foie est atteint, et vous le sentez, l'expression c'est la fatigue extrême, la fatigue intense que le malade présente. Mais c'est une très belle question.
Voilà, docteur, on va parler maintenant de moyens de lutte contre cette maladie. Vous avez suivi Godefroy qui a demandé avec le flux migratoire, on ne craint pas que la maladie puisse n'est pas seulement se concentrer au niveau de la pointe de l'équateur, notamment au niveau de Boindé, dans mer également, c'est traverser d'autres parties du pays avec le flux migratoire. Il a également demandé, vous avez des dépliants, j'ai comme l'impression qu'il vous connaît très bien parce qu'il a même été dans votre bureau. Il estime qu'en dehors de la radio, en dehors de la télé, il y a également des dépliants qui faudra distribuer à la population pour être mieux renseigné par rapport à cette maladie. Et donc, si je comprends bien toutes les autres questions posées, ces types sur de moyens mis en place pour limiter cette maladie au niveau de la province de l'Équateur, et après vous allez parler de mesures préventives parce que vous avez suivi, il y a Dieudonné, mais également Rachel qui a parlé des personnes qui vivent avec des personnes infectées mais qui n'ont pas attrapé la maladie. Également cette question de Wivine qui a demandé une personne qui est infectée, qui est guérie, pensez-vous que cette personne peut côtoyer ou il faut encore attendre beaucoup plus longtemps avant d'être en contact d'une personne qui a souffert de la maladie d'Ebola et puis qui serait guérie?
Merci. Je prends rapidement la question de Godefroy.
Oui.
Par rapport au flux migratoire non contrôlé, vous savez, les gens qui bougent d'une province à l'autre,
oui,
c'est vrai, il y en a qui vont en avion, mais c'est assez difficile de mettre de barrières partout pour contrôler les cas suspects d'Ebola. Néanmoins, aussitôt que son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, qui est en fait le responsable de la coordination nationale, avait donné le temps pour dire qu'on suive le plan de contingence qu'on avait préparé au niveau de la coordination nationale. L'inspection provinciale chez nous au Bandundu, immédiatement le médecin inspecteur a réagi, fort de l'expérience que nous avions eue dans le passé. Immédiatement le médecin inspecteur a réagi en nous donnant des instructions partout. C'est comme ça que nous avions produit le dépliant. C'est pas le tract, c'est un dépliant. Et ce dépliant porte la mention comité de lutte contre les épidémies et les catastrophes et inspection provinciale.
Et qui sont distribués, non.
Le problème que nous avons, il faut le reconnaître, c'est un problème de moyens. Nous avons reçu en même temps les documents préparés par la coordination nationale que j'ai. Mais puisque nous étions à Kikwit, nous avons adapté, nous avions mis en Kikongo et nous sommes en train de chercher des moyens pour mettre en Lingala, en Swahili, en Chiluba. Mais du moins nous avions préparé ces documents, ces dépliants en Kikongo et en français. C'est un dépliant qui correspond exactement à ce qu'on a fait, mais enrichi par rapport à notre expérience, l'expérience que nous avons eue à Kikwit. Mais c'est exactement le même travail qu'on a ici. Certainement, si on peut aider le ministère de la Santé à avoir suffisamment de fonds, ils vont produire les documents qu'on nous avons reçus de la coordination nationale. Et ça, on pourra donner non seulement à Kikwit, un peu partout dans toutes les provinces de notre pays. Et pourquoi pas en Afrique de l'Ouest où on nous demande d'apporter notre expérience. Et par rapport... j'ai répondu, je crois, à sa préoccupation par rapport à ce que l'inspection provinciale a fait. D'ailleurs, quand nous avons commencé les premières activités de sensibilisation, on était avec le MIP, le médecin inspecteur provincial, et le directeur du sous-bureau, le responsable, le médecin du responsable du sous-bureau de l'OMS au Bandundu. Donc, nous sommes promptes à toute éventualité, à tout ce qui peut arriver, et même préparer la population à ce que cela n'arrive pas.
Et les mesures préventives, docteur Anne.
Les mesures préventives, nous avons résumé en Kikongo et en français, et même le travail dans notre bureau en train de se faire en Lingala, en Swahili, nous voulons reprendre exactement ce que la coordination nationale a fait, mais en les résumant, je demanderai à Baudouin, à tous ceux qui me suivent, de lever leurs mains les 5 règles d'or pour éviter la contamination. La première règle d'or, si vous le voulez bien, c'est d'ailleurs comme c'est écrit dans les dépliants du Saint-Saint, ils ont dit éviter la panique. Nous nous disons la première règle d'or, c'est l'information, de contrôler l'information. Nous disons ne cédez pas à la panique, ne vous fiez pas aux rumeurs, suivez et appliquez exactement les règles et recommandations qui viennent des autorités politico-administratives, des médecins et des autres agents de la santé. Comme vous le savez, la rumeur cause des dégâts. Voyez ce qui s'est passé au Libéria quand les gens ont dit ne croyez pas à l'épidémie. Toutes les stratégies pour contrôler la maladie que vous pouvez amener par après vont échouer si vous n'arrivez pas à contrôler la rumeur et vous n'apportez pas l'information exacte à la population. Deuxième règle d'or. Donc, si vous prenez votre premier doigt, le deuxième doigt, c'est un petit exercice. Donc, les 5 règles d'or. Oui. Le deuxième, c'est l'hygiène. Et l'hygiène, là, on en parle et on en parlera toujours. Éviter les salutations actuellement. Éviter les salutations, les accolades en cette période. Lavez régulièrement les mains avec du savon ou la cendre. Chaque fois que vous sortez, vous êtes dans des milieux publics. Vous ne savez pas celui que vous avez salué, qu'est-ce qu'il a touché. Et quand vous rentrez chez vous, avant d'embrasser votre enfant, avant de laver vos mains, lavez régulièrement les mains pour éviter. Et surtout, pour éviter les infections nosocomiales. Les infirmiers et les personnels de santé doivent laver 40, 50, pourquoi pas plus quand ils sont à l'hôpital.
Autant de fois possible.
Voilà. La troisième règle d'or, c'est évidemment en rapport avec l'écosystème. C'est-à-dire éviter de manipuler, toucher, disséquer et préparer tout gibier frais. Le ministre l'avait très bien dit. Il a dit, c'est pas la viande boucanée, c'est du gibier frais, mort de lui-même. Et là, notre médecin inspecteur avait très bien ajouté, il a dit, regardez, le réflexe normal quand vous rencontrez une antilope dans la brousse, l'antilope s'éloigne. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez ça? Cela rejoint la préoccupation de quelqu'un qui a dit, il faut que ce soit nécessairement un animal mort. Vous rencontrez une antilope dans la brousse, le réflexe normal, l'antilope doit s'éloigner. Mais si l'antilope ne s'éloigne pas, elle n'est pas encore morte, elle est malade. Et vous, vous allez dire, voilà, c'est une chance. Non, vous apportez le malheur dans votre famille. Donc, évitez cela. Prudence avec les singes, les chauves-souris ou tout autre animal que vous trouvez mort de lui-même dans la forêt. Troisième règle d'or.
Quatrième
règle d'or, merci.
Oui.
C'est en rapport avec le malade à virus d'Ebola. Tout malade, évitez tout contact direct non protégé avec lui ou avec ses humeurs corporelles. Là-dessus, il y a les urines, les vomissures, les sueurs, les larmes, les selles, les spermes. Et quand je parle de sperme, je reviens à la question de quelqu'un qui a dit « C'est malade-là qui est guéri, qui ne présente aucun signe. » On a trouvé, quelques semaines plus tard, de virus d'Ebola dans le sperme de quelqu'un qui était convalescent. Donc nous, nous conseillons, nous disons, même quelqu'un qui est convalescent, la première semaine, s'il vous plaît, évitez ces contacts, même les contacts sexuels. Ou si vous devez nécessairement le faire, ok, faites-le avec les condoms. C'est pourquoi j'ai dit aussi à notre ami de Lubumbashi, qui a dit, c'est vrai, nous sommes des Africains, il y a l'affection maternelle. Mais oui, mais mon cher Jules, avec l'affection maternelle, on n'a jamais vu en tant qu'Africain une personne qui a perdu quelqu'un de très cher. Pendant qu'on l'enterre, vous dites, mettez-moi dans le cercueil avant lui. Toute activité que nous faisons pour dire, pour manifester notre amour, en touchant quelqu'un qui est malade, en l'embrassant, en touchant ses habits, sans de moyens, de précautions universelles, sans être protégé, nous faisons exactement comme si vous disiez « mettez-moi dans le trou avant cette personne-là ». Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter.
Et la cinquième règle ?
La cinquième règle d'or, c'est évidemment avec le cadavre, avec quelqu'un qui est mort. Ça rejoint aussi ce que notre ami Jules Mouillot a dit.
Oui.
Ne touchez pas ses habits, brûlez-les. Si vraiment vous voulez. Et la maison, il faut le désinfecter. On utilise l'hypochlorite de sodium ou l'hypochlorite de sodium qui est très toxique. Évitez de manipuler les cadavres ou leurs habits, tout ce qui appartenait à ces malades-là. Et ne les faites surtout pas sans moyen de protection. Ça, c'est un comportement à risque. Donc, voilà. Voici, en résumé, les cinq règles d'or que les gens se souviennent. Il suffit de lever le doigt, la main pour dire les cinq règles d'or. La rumeur, contrôler la rumeur, l'hygiène, comme nous l'avions dit, l'écosystème, le contact avec la forêt, ça rejoint la question d'un ami qui disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça une fois pour toutes? C'est de prendre des précautions avec l'écosystème, la forêt, et comment nous gérons notre écosystème. Je crois que on pourra contrôler parce que les virus, c'est toujours là. Les virus, c'est dans la nature.
Voilà. Merci beaucoup, docteur Anissi, qui passe à Mungala. Vous êtes médecin chef district sanitaire de Kikwit. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio pour parler de la maladie d'Ebola, notamment pour ce qui est du signe de cette maladie et notamment des mesures préventives. Merci beaucoup.
Merci.